Radio J, le 6-9, Charlène Villemer. Radio J.
Bonjour et bienvenue sur Radio J, il est 7h, nous sommes le 14 octobre 2024. Excellent réveil en notre compagnie.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Bonjour Daniel et Boker Tov.
Boker Tov, Charlène.
Et nous commencerons ce journal par l'annonce faite durant la nuit par le porte-parole après ce qui s'est passé hier près de Binyamina.
Oui, bien entendu, il s'agit du porte-parole de Tzal, une annonce douloureuse. Dans la nuit, 4 soldats israéliens ont été tués hier par l'explosion d'un drone offensif tiré par le Hezbollah à partir du sud Liban. Cela s'est passé dans une base militaire de nouvelles recrues de la brigade Golani près de Binyamina. Une cinquantaine d'autres soldats, on peut parler même d'une soixantaine d'autres soldats, ont été plus ou moins sérieusement blessés. 7 d'entre eux sont grièvement blessés, 9 ont été moyennement touchés. Les autres sont dans un état relativement satisfaisant.
Que sait-on, Daniel, sur les circonstances de ce tir de drone ?
Bien, on sait que 2 drones offensifs ont été tirés hier vers 19h en même temps, à partir du sud Liban, en direction d'Israël, en survolant l'espace maritime israélien. L'un des 2 drones a été intercepté par Tzal au-dessus de Naharia. Le second était repéré par les forces de Tzal, mais brusquement, il a disparu des radars. Et peu après, s'est écrasé donc sur la salle à manger des unités de nouvelles recrues de la brigade Golani près de Binyamina, alors que les soldats étaient en train de dîner. Pour une raison encore inconnue, l'alerte rouge ne s'est pas déclenchée au sein de Tzal. On vérifie actuellement comment le drone a réussi à échapper à la vigilance des forces de sécurité à plus de 60 km à l'intérieur du territoire israélien. Dans un point de presse durant la nuit, le porte-parole de Tzal, Daniel Hagari, a affirmé que Tzal allait tirer les leçons de cet événement grave. Nous devons fournir une meilleure protection. Nous allons enquêter sur les circonstances de ce tir et nous allons nous améliorer. Fin de citation.
Et le Hezbollah a endossé la responsabilité du tir de ce drone meurtrier.
Oui, le Hezbollah a affirmé qu'il s'agissait là d'une riposte aux attaques de l'armée de l'air contre Beyrouth jeudi dernier. Au total, le Hezbollah a endossé la responsabilité d'une quarantaine de tirs de drones et de missiles au départ du Liban vers Israël. Durant 24 heures, jamais depuis le début de la guerre, la journée n'a été aussi difficile donc, pour les forces israéliennes. Il faut souligner que 5 roquettes ont été tirées hier vers la région de Haïfa. Elles ont été interceptées par la marine israélienne. Peu avant, des alertes rouges ont été entendues dans la région de Kiryat Shmona. Une partie des roquettes ont été interceptées, les autres sont tombées dans des champs.
Le secrétaire d'État américain a téléphoné durant la nuit à son homologue israélien Yoav Gallant.
Oui, Lloyd Austin a présenté ses condoléances au ministre israélien de la Défense pour la mort des 4 soldats près de Binyamina. Il lui a réaffirmé l'engagement des États-Unis à préserver la sécurité d'Israël et il a rappelé que cet engagement allait se concrétiser dans les prochains jours par l'envoi d'une batterie de missiles antimissiles de type Tsaad qui doit protéger le ciel israélien. Lloyd Austin a également insisté sur la nécessité de préserver la sécurité des soldats de la FINUL et de l'armée libanaise au sud Liban. Et enfin, il a indiqué la nécessité de passer de la phase militaire de l'opération au Liban à une phase diplomatique.
Et puis un développement intéressant et important qui se rapporte justement au bombardement israélien à Beyrouth.
Oui, selon des directives de l'échelon politique israélien, Tzal a décidé de suspendre ou aurait décidé de suspendre ses raids aériens contre des cibles au cœur de la capitale libanaise. Il s'avère que mercredi dernier, lors de leur conversation téléphonique, le président Biden a demandé au premier ministre Netanyahou de cesser de bombarder Beyrouth. Parallèlement, le commandant de la Sand Force, les forces américaines qui sont déployées au Moyen-Orient, a fait parvenir une requête semblable au chef d'état-major de Tzal, le général Herzi Halevi. Un responsable politique a affirmé qu'il n'y avait pas du tout de directive de ce type et qu'il s'agissait d'une fake news. Nous nous réservons le droit de frapper nos ennemis en fonction des cibles qui nous sont proposées, a déclaré ce haut responsable politique qui a tenu à préserver l'anonymat.
Et enfin, Daniel, il y a eu hier de nouvelles tensions entre Tzal et la FINUL au sud Liban.
Oui, hier, les responsables de la FINUL ont affirmé que 2 blindés israéliens avaient pénétré en force dans l'une de leurs positions au sud Liban, détruisant apparemment au passage le portail du poste d'observation de cette position. Tzal a enquêté, a publié hier, en début de soirée, un communiqué dans lequel il affirme que les forces israéliennes ont été confrontées à des terroristes de Hezbollah, à proximité donc d'une base de la FINUL, et que pour évacuer des soldats israéliens qui avaient été blessés, un blindé a pénétré dans la position de la FINUL sans avoir présenté le moindre danger pour les forces forces des casques bleus. Au sein de Tzal, on affirme que la présence des forces de la FINUL au cœur de la zone des combats met les casques bleus en danger. Hier, Benjamin Netanyahu a demandé dans un communiqué vidéo à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, de faire sortir les casques bleus de la zone des combats.
Merci Daniel, on vous retrouve dans 30 minutes pour la revue de la presse israélienne. La vigilance orange crue est maintenue sur le Loir-et-Cher aujourd'hui. Ailleurs, c'est nuageux et pluvieux, surtout ce matin dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord, le temps est variable avec des passages nuageux et des averses, surtout dans le centre Val-de-Loire au Grand Est, alternant avec quelques éclaircies. Dans le Sud, les nuages connaîtront des averses aujourd'hui, notamment en Occitanie et puis sur les Alpes. Et puis attention, vigilance, peut-être un orage en fin de journée. L'après-midi, ça s'améliore avec du beau temps, sauf dans le Nord-Est où le ciel restera couvert toute la journée côté Mercure. Il fait 7 degrés à Lille, 11 degrés à Paris, 12 degrés à Lyon et 15 degrés à Toulon. En Israël, grand soleil aujourd'hui, déjà 24 degrés ce matin à Tel Aviv et à Haïfa, 23 degrés à Jérusalem et puis 26 degrés à Eilat.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
Et nous retrouvons à présent Daniel Rouache, président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour Daniel.
Et bonjour Charlène.
Merci d'être avec nous comme chaque lundi. Alors contrairement à ce qui est dit, la coopération technologique high-tech militaire entre la France et Israël est en nette progression.
Oui, effectivement, ça va étonner beaucoup de monde. Vous savez, on me demande souvent où en sont les relations franco-israéliennes et surtout, ont-elles un avenir sur le plan high-tech et militaire ? En fait, la réponse est les relations franco-israël se vont bien. Il n'y a pas eu de blocage quel qu'il soit. Il y a beaucoup de paroles qui ont été dites par-ci et par-là, mais globalement, les relations sont bonnes. Je voulais donner pour nos auditeurs de Radio J des preuves avec des événements exceptionnels qui méritent d'être connus, qui sont déroulés ces derniers temps. Le premier événement a été organisé en France par Gérard Pomper et Samy Peres. Il a été organisé au Sénat. Et le deuxième a été organisé par Julien Reutemann de la Chambre de commerce Israël-France à Tel Aviv. Et c'est le nouveau président. Et cet événement a été organisé à l'ambassade de France, avec l'ambassadeur de France. Il y a eu plus d'une centaine de personnes présentes. Tout ça dans un contexte. Quel est le contexte? Je vous le dis, c'est un article qui est paru dans la revue Harvard Business Review récemment. Le titre d'un article convient parfaitement à ce qui se passe entre la France et Israël. De point, guillemets, travailler avec un rival, il faut parfois unir vos forces avec vos redoutables concurrents. C'est ce qui se passe entre les Français et Israéliens, surtout dans le domaine militaire. On a vu que les Israéliens et Français se sont alliés, par exemple, en Inde, pour travailler ensemble sur des projets absolument exceptionnels. Alors, pour en revenir de manière concrète à ce qui se passe entre la France et Israël, je vous donne pour preuve un colloque sur la cybersécurité franco-israélienne qui s'est tenu au Sénat. Ça a été vraiment un succès exceptionnel. Pour l'histoire et pour que nos auditeurs n'oublient pas le contexte, Thales, le groupe français d'électronique aérospatiale et de défense, s'est porté acquéreur de la société de cybersécurité israélienne Imperva pour un montant de 3,6 milliards de dollars. Donc déjà, dans le domaine de la cybersécurité, Français et Israéliens collaborent de manière très étroite. Lors de du colloque au Sénat, ce colloque a été mené par M. Igal Yuna, qui a été pendant 4 ans le directeur général de la National Cyber Directorate israélienne, la principale agence opérationnelle israélienne chargée de sécuriser le cyberespace et les infrastructures critiques. Je sais que si Igal Yuna, avec qui j'ai parlé, m'a dit plus d'une fois les très bonnes relations qui existent entre la France et Israël. Lui-même a servi pendant plus de 6 ans en tant qu'officier dans l'unité 8200 de la force de défense israélienne. De nombreuses sociétés israéliennes étaient présentes à Paris, Armis, Siabra, Sitaka, Flossi, Falcor, Kela, Radiflow, Security Matters MKI, Signa, Verity, toutes des sociétés de premier niveau qui venaient offrir aux Français leur technologie et leur savoir-faire et des coopérations qui se sont signées par ailleurs. Autre événement, et là c'était très impressionnant, il a eu lieu à Tel Aviv, dans les jardins de l'ambassade de France, ça a eu lieu le 25 septembre, Et là, Julien Rotman a accueilli plus d'une centaine de personnes. L'ambassadeur était là. C'est lui, Frédéric Journès, qui a décidé d'organiser cette réception en l'honneur de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France. Et très, très franchement, ça a été un succès absolument exceptionnel, puisque toute l'industrie franco-israélienne était présente avec des personnalités de premier plan. Et en fait, ce que disait Julien Rotman, la relation entre la France et Israël doit continuer de manière très forte. Nous devons continuer à travailler, nous devons opérer des opérations et même s'il y a eu un épisode qui a été assez malheureux avec Eurosatory, il faut continuer. Donc voilà, les relations entre la France et Israël continuent malgré les difficultés qu'on connaît, mais globalement, à l'avenir, les choses vont s'améliorer de manière exceptionnelle.
Eh bien, merci Daniel Rouach, on vous retrouve lundi prochain. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France à lundi.
Vous écoutez le 6-9, Charlène Villemer.
7h11 sur Radio J, c'est l'heure de la chronique judaïsme au féminin avec Maria Chadré qui est avec nous. Boker Tov.
Boker Tov, Shavua Tov. Et aujourd'hui donc une chronique sur Soukhot. Nous sommes à la veille de Soukhot, alors le soulagement bien connu d'après Kippour, ce sentiment d'accomplissement. Et c'est le moment maintenant, après Kippour, eh bien, d'arriver aux travaux pratiques. Oui, Soukhot, c'est les travaux pratiques de Kippour. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons essayé de créer une version améliorée de nous-mêmes. On a essayé de faire mieux. Et maintenant, eh bien, le défi est devant nous. Soukhot arrive et c'est le moment d'évaluer, en fait, notre rapport au monde, notre rapport à la consommation, notre rapport à la matérialité. À Soukhot, rappelons-le, nous sortons de chez nous. Nous sortons du confort de la maison et on va aller s'installer à l'extérieur de chez nous, s'installer pour manger, pour dormir, pour y vivre, pour recevoir nos invités. En fait, nous vivons bien évidemment aujourd'hui dans un monde de surconsommation, une consommation à outrance, un monde de loisirs, un monde de facilité et de plaisir. Et on est convaincu, absolument convaincu, disons-le, que tout cela est absolument nécessaire, qu'on a besoin de tout notre confort, qu'on a besoin de toutes nos facilités. Et voilà que nous sommes invités juste après Kippour à sortir et aller manger dans un endroit, s'asseoir à l'étroit, au gré du vent, au gré de la météo, dans une habitation provisoire. Et on va tester à ce moment-là notre capacité à nous réjouir. Oui, à nous réjouir. Soukhot s'appelle... est appelé par nos sages Zman Simchatenu, le moment de notre réjouissance. Comment se réjouir ? Comment fait-on ? Qui a la clé, la recette de la joie, du bonheur ? Eh bien, la joie dans la Torah n'est pas le produit de l'avoir, mais c'est bien le produit de l'être. La joie, en fait, c'est une posture de vie. C'est le sentiment de satiété que l'on a par rapport à ce que l'on possède, et peu importe ce que l'on possède. Et rappelons cette explication du Harizal concernant Soukhot, puisque c'est une posture de vie, la joie. Eh bien, le Harizal nous dit, Soukhot, c'est le moment où on va sortir donc de notre zone de confort, on va rentrer dans cette habitation provisoire. Et cette habitation provisoire, pour être cachère, elle doit être faite de deux côtés et demi. C'est-à-dire un côté total, un autre côté total, et enfin un troisième côté, même... un début de mur. Pourquoi deux côtés et demi, nous dit le Harizal, je trouve ça assez bouleversant, il dit qu'après tous les efforts que nous avons faits, les prières, la version améliorée de nous-mêmes, de Rosh Hashanah, la demande de pardon de Kippour, eh bien il nous invite chez lui. Et chez lui, eh bien c'est peut-être dans un endroit qui n'a pas l'air confortable d'après les normes occidentales, mais c'est un endroit dans lequel on reçoit un enlacement divin. Je ne sais pas si on réalise ce que ça signifie, mais effectivement, les deux côtés et demi, dit le Harizal, ça correspond à l'enlacement d'une personne, c'est-à-dire l'avant-bras, le bras et la main. Nous sommes enlacés par de la spiritualité, par du divin. Quelle chance nous avons de pouvoir être dans cette posture de joie, de ne pas être accroché à l'avoir, être accroché à l'être. Oui, être juif aujourd'hui, plus que jamais, c'est cette posture forte, cette posture résiliente, cette posture de Emouna, de foi en Dieu. Nous allons nous asseoir sous le ciel. Et l'idée, bien sûr, n'oublions pas, c'est à travers les branchages, eh bien, de voir le ciel. N'oubliez pas de regarder le ciel.
Eh bien, merci Maria Chadré, que l'on retrouve pour sa chronique Judaïsme au féminin lundi prochain sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
7h15, nouveau point sur l'actualité avec le rappel des titres présenté par Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Charlène, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette attaque en Israël au drone hier soir dans la région de Binyamina, elle a visé une base de Tsahal. Les soldats étaient au réfectoire en train de dîner. Le bilan est donc très lourd. 4 soldats israéliens ont été tués, 58 autres blessés. Au vu de leur nombre très important, les blessés ont dû être pris en charge par 4 hôpitaux différents. Le Hezbollah a tiré 3 drones contre Israël hier soir. 2 ont pu intercepter, mais pas le troisième. Selon les premiers éléments, le drone a glissé à très basse altitude. L'appareil était juste au-dessus du toit des maisons. Le Hezbollah a revendiqué cette attaque et évoque un essaim de drones suicides. Toujours sur le front nord, les tensions entre Israël et la FINUL, la force d'interposition de l'ONU à la frontière libanaise, elle accuse désormais Tsahal d'être rentré de force dans l'une de ses positions à la frontière. L'armée israélienne a en fait été victime d'un tir de anti-char massif et pour évacuer les blessés, les chars ont dû reculer de quelques mètres vers une position de la FINUL, la seule zone de repli possible pour les soldats israéliens. C'est dans ce contexte tendu que le ministre israélien de la Défense s'est rendu à la frontière avec le Liban hier aux côtés des soldats de Tsahal qui y sont déployés. Les opérations vont continuer jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints, a affirmé Yoav Gallant. Le président du régime islamique monte au créneau après les déclarations d'Emmanuel Macron. Il lui a téléphoné hier soir. Selon le bureau du chef de l'État iranien, lors de cette conversation, il a été question des moyens d'obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. La mémoire de Dominique Bernard, célébrée à Arras un an après l'attentat. Le professeur de français avait été assassiné le 13 octobre 2023. Ce matin, dans les collèges et lycées, une minute de silence sera organisée en son hommage, mais aussi à Samuel Paty.
Merci Eva, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal complet.
Radio J. Radio J. Le 6-9.
Charlène Villemer. Radio J.
Excellent réveil à l'écoute de la matinale sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, lundi 14 octobre. Prenez votre café et puis votre dose d'information pour bien démarrer la journée. Je vous donne le programme de la prochaine demi-heure. Christophe Barbier sera avec nous ce matin pour son édito. Rendez-vous à 7h45. Juste avant, un petit peu d'humour. On fait une pause avec du rire et Nicolas Raffal qui sera avec nous à 7h39. Et puis avant 7h30, on retrouvera Pascal Zonshine pour son Zoom Israël. On fera le point sur l'actualité israélienne. Et puis l'invité de la rédaction ce matin, 7h20, on retrouvera Caroline Yadan avec vous, Eva Soto, députée des Français établis hors de France. Quel sujet allez-vous aborder?
Eh bien, nous reviendrons bien sûr sur cet hommage à Dominique Bernard, professeur agrégé de lettres modernes, qui a donc été tué il y a un an dans le sillage, malheureusement, des attentats du Hamas en Israël. C'était quelques jours après. Nous y reviendrons avec elle.
Merci beaucoup, restez avec nous, c'est dans un instant à suivre Caroline Yadan, députée des Français établis hors de France sur Radio J.
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Radio J.
Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J.
Radio J.
Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous.
Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cacheroute.
Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 euros. Envoyez vos dons à Mazone, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin.
Ou sur mazone.org.
0148 21 00 30.
Les voies voix du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Bible, Talmud, Ashkenaz et Séfarade, pratiques synagogales et piété personnelle, tradition et réforme, c'est avec pédagogie que Maurice Ruben Ayoun nous fait voyager des origines à aujourd'hui. Cette galerie encyclopédique montre la fécondité intellectuelle qui a permis au judaïsme de ne jamais être en retard d'une modernité dans un attachement indéfectible à l'identité d'Israël. Les voix du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Les éditions du Cerf. À livre riche, accessible, stimulant.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
Radio J. 7h20 sur Radio J. Nous avons beaucoup de plaisir à retrouver Caroline Yadan à votre micro, Eva Soto.
Bonjour Caroline Yadan.
Bonjour Eva.
On vous retrouve bien sûr comme chaque semaine, une semaine sur deux sur Radio J. Vous êtes députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui comprend Israël. Et cette semaine, Caroline, vous avez choisi d'évoquer le devoir de mémoire envers Dominique Bernard, professeur agrégé de lettres modernes, assassiné à Arras à 57 ans, c'était l'année dernière.
Oui Eva, souvenons-nous de Dominique Bernard, mortellement blessé à la gorge et au thorax il y a tout juste un an, le 13 octobre 2023, par un islamiste de 20 ans qui visait explicitement son ancien professeur de français pour ce qu'il représentait. Souvenons-nous de Dominique Bernard, pris pour cible 3 ans presque jour pour jour après Samuel Paty, assassiné lui parce qu'il avait montré à ses élèves de 4e 10 jours auparavant 2 caricatures de Mahomet, issues de Charlie Hebdo. Oui Eva, en ce mois d'octobre 2024, souvenons-nous. Souvenons-nous de Dominique Bernard, frappé à la gorge et au thorax parce qu'il représentait l'attachement à la démocratie et aux droits de l'homme, valeur qualifiée comme mécréante par son assaillant qui avait prêté allégeance au calife de l'État islamique qui avait déclaré sa haine de la France, des Français, de la démocratie et de l'éducation nationale. Dominique Bernard, poignardé, Samuel Paty, décapité, parce qu'ils avaient choisi la transmission de la culture de l'esprit critique, parce qu'ils avaient choisi de transmettre la liberté. La liberté de dire, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de ton, la liberté d'apprendre, la liberté de blasphémer, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de rire. Souvenons-nous de Dominique Bernard et de Samuel Paty et ne renonçons jamais à employer les mots justes.
Quel mot, Caroline ?
Eh bien, islamisme d'abord, l'idéologie mortifère qui les a exécutés et le terrorisme islamiste, dont l'objectif est, comme son nom l'indique, de semer la terreur. Cet islamisme meurtrier qui a tué Charlie et tenté d'éliminer Salman Rushdie. Cet islamisme des massacres du Bataclan et du pogrom du 7 octobre. Cet islamisme meurtrier, ignorant de l'islam, qui cultive la haine, conspire le mensonge et sème le mépris de nos valeurs. Cet islamisme rampant, porté par la confrérie notamment des frères musulmans qui a trouvé dans notre société des alliés objectifs à la gauche extrême qui pense, en se soumettant à son joug et en inversant nos valeurs, flatter un électorat ou calmer les esprits en évitant de lui déplaire. Cet islamisme auquel nous n'avons pas le droit de trouver d'excuses au nom de la tolérance, au risque de nous perdre définitivement dans la compromission.
Islamisme, mais aussi laïcité ?
Bien entendu, souvenons-nous que ces professeurs défendaient la République et la laïcité, ce trésor national garant de nos libertés qui nous permet d'affirmer que la foi des uns ne fait pas la loi des autres et encore moins celle de tous. La laïcité, héritage de nos Lumières qui prône l'universalisme émancipateur des droits, c'est-à-dire l'absence de distinction des individus en fonction de leur origine. La laïcité qui n'oppose pas la foi à l'incroyance, mais qui au contraire laisse une place à côté pour une croyance différente de la nôtre. Cette laïcité qui est haïe par les fondamentalistes, non pas parce qu'elle opprime, mais parce qu'elle libère en offrant le privilège de l'indifférence religieuse. Que deux professeurs de l'école de la République aient pu être assassinés pour avoir rempli cette mission est intolérable et situe la gravité sans précédent de ces événements inscrits dès lors et de la façon la plus douloureuse dans l'histoire de notre école républicaine. C'est pourquoi la minute de silence organisée aujourd'hui dans les collèges et lycée de France est incontournable, car elle permet de renforcer notre modèle républicain. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, souhaite que cette minute de silence puisse être suivie d'un temps d'échange et de réflexion entre les élèves et leurs professeurs. La commémoration de ces événements tragiques doit être pour l'école de la République à la hauteur à la fois du traumatisme subi et des principes qui ont été attaqués à travers ces assassinats. Elle doit aussi permettre de renforcer nos précieux professeurs, parfois bien démunis, parfois dans l'autocensure, souvent mal armés, face aux situations nouvelles de contestation du principe de laïcité. Face aux offensives qui visent à fragiliser nos fondements démocratiques, accompagnons nos professeurs à enseigner l'article 1er de la Constitution de la 5e République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, pour faire de nos enfants des citoyens à part entière, fiers de la France et conscients de leurs devoirs. Accompagnons-les, Eva, par des formations adaptées, par un soutien indéfectible au moindre signalement, par des interventions fermes et ciblées à évoquer la mémoire de leurs deux collègues pour que leur message n'emprunte pas le chemin de l'oubli. Encourageons nos professeurs en sanctionnant sans délai toute opposition à nos valeurs fondamentales, en continuant à identifier les prêcheurs de haine pour mieux les expulser, en multipliant les contrôles sur les réseaux sociaux, en punissant les coupables de ces diffusions hostiles et criminelles. Il est indispensable d'interroger l'indicible pour laisser à nos professeurs Bernard et Patty, au-delà de la mort, une place inaltérable. Certaines histoires laissent en nous des traces indélébiles. Les assassinats de Dominique Bernard et de Samuel Patty en font partie. Souvenons-nous d'eux pour que leur mort jamais ne puisse devenir vaine.
Merci beaucoup Caroline Yadon, qu'on retrouve bien sûr très régulièrement sur Radio J. Merci.
Et merci.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J.
Et c'est l'heure pour nous de retrouver notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, Eva Soto.
Eva, Pascal Sunshine, vous revenez ce matin sur l'attaque de drones d'hier et le défi que cela représente pour la défense anti-aérienne de Tsahal.
Oui, l'attaque du Hezbollah qui a coûté la vie hier soir à 4 soldats de Tsahal dans une base à l'intérieur d'Israël vient rappeler que la milice pro-iranienne a toujours des ressources malgré les coups sévères qu'elle subit depuis quelques semaines. Hier, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, expliquait au gouvernement que le Hezbollah avait perdu environ 70% de ses roquettes à moyenne portée, mais à l'échelle de son arsenal, ça lui laisse encore une capacité suffisante pour continuer à attaquer Israël. Et on le voit avec les tirs qui frappent toujours le nord du pays à une moyenne de 100 à 200 roquettes par jour. Et le Hezbollah utilise aussi donc des drones, des appareils fournis par l'Iran. On estime qu'il en a quelques milliers d'unités en réserve. L'organisation chiite en avait tiré beaucoup au début de la guerre, quand elle opérait librement au plus près de la frontière. C'était même une de ses armes de prédilection, avec les missiles anti-chars, les deux ayant en commun d'être des armes de précision et beaucoup plus difficiles à intercepter que des roquettes. Même si leur charge est inférieure, elles sont donc beaucoup plus dangereuses vu leur chance d'atteindre leur cible. Mais une guerre est par définition dynamique. La défense anti-aérienne israélienne apprend des techniques de navigation du Hezbollah pour améliorer ses performances d'interception, ce qui a conduit le Hezbollah à changer de tactique pour privilégier les bombardements de roquettes. Mais maintenant qu'il doit penser à économiser ses munitions et qu'il a plus de mal à tirer au plus près de la frontière, il revient aussi aux attaques de drones. Et les terroristes qui opèrent les drones ont eux également appris des techniques de défense de Tsahal. Ils privilégient les trajectoires par la mer qui rendent plus difficile la détection des appareils qui ont de toute façon une signature radar très faible. C'est évidemment leur principal atout, avec le fait qu'ils peuvent à tout moment modifier leur trajectoire. Ça n'est pas un hasard non plus si le Hezbollah a tiré deux drones simultanément, probablement l'un au-dessus de l'autre, pour permettre au second de poursuivre sa course si le premier était abattu. C'est ce qui s'est passé hier soir. Et c'est aussi ce qui s'est passé vendredi soir, quand la défense antiaérienne de Tsahal avait intercepté un premier drone, mais que le second avait explosé sur une maison de retraite à Herzliya, heureusement sans faire de blessés. Depuis le début de la guerre, Israël a subi environ 1200 attaques de drones sur tous les fronts, c'est-à-dire du Hezbollah, mais aussi de Gaza, des milices pro-iraniennes en Irak, des Houthis du Yémen et bien sûr de l'Iran. Au total, plus de la moitié ont été interceptés et très peu ont atteint leur cible. Tsahal travaille constamment à améliorer ses performances, mais son bouclier de défense ne peut pas être étanche à 100%. Les systèmes de défense laser qui doivent venir en soutien des batteries dômes de fer ne sont pas encore opérationnels, même si leur développement est pratiquement achevé. Mais malheureusement, il n'y a pas encore d'arme absolue contre les drones.
Merci beaucoup Pascal Zunshein, notre correspondante à Jérusalem. Pascal, qu'on retrouvera bien sûr cet après-midi dans le Grand Journal sur Radio J, présenté par Steve Nadjar, le 14-15 de l'info.
Et merci à vous Eva Soto, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal d'information. Restez avec nous sur Radio J, dans un instant nous retrouverons Christophe Barbier pour son édito comme chaque lundi matin. Et puis juste avant, on retrouve Nicolas Raffal et sa plume qui seront avec nous.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
Bonjour et bienvenue sur Radio J, il est 7h30. Bon réveil en ce lundi 14 octobre 2024. Tout de suite, la revue de la presse israélienne.
Direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Bonjour Daniel et Boker Tov.
Bonjour Charlène, Boker Tov.
Les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin sont consacrées à ce que le Yediot Aharonot et le Israel Hayom appellent ensemble ce matin la catastrophe des drones.
Oui, effectivement, le Yediot Aharonot nous montre une photo douloureuse du sang qui a coulé à flot malheureusement hier soir dans la salle à manger de la base de la brigade Golani à la suite de l'impact d'un drone offensif tiré à partir du territoire libanais. Le Israel Hayom, lui, a choisi comme photo une longue file d'ambulances venues chercher les très nombreux blessés après cette frappe donc du Hezbollah. Les journaux expliquent en sous-titre que deux drones offensifs ont été tirés au même moment à partir du Liban vers Israël. Le premier a été intercepté aux alentour de Naharia. Le second a disparu des radars. Il s'est finalement écrasé donc dans la salle à manger de la base de formation de la brigade Golani alors que les soldats étaient en train de dîner. L'alerte rouge n'a pas été déclenchée. Le bilan est très lourd. 4 soldats tués et près de 60 autres blessés, plus ou moins grièvement. Le Israel Hayom cite des sources saoudiennes qui affirment qu'avant de s'écraser, le drone aurait tiré un missile, mais cette information n'a pas encore été confirmée.
Ron Ben Nishai, le vétéran des correspondants de guerre, tente à chaud de comprendre en première page du Yediot ce qui s'est passé hier.
Oui, Ron Ben Nishai nous explique que Tsahal enquête pour comprendre comment il a perdu la trace de ce drone offensif qui avait été repéré à temps. Il semble, affirme-t-il, que le drone a réussi à duper les systèmes de radar israéliens et à se détourner brusquement pour modifier sa cible. Et il explique que même si la moitié des drones du Hezbollah sont interceptés, il s'agit d'une cible très petite qui peut parfois échapper à la vigilance des forces de l'armée de l'air israélienne.
Et qu'écrivent les autres éditorialistes à propos de ces développements, Daniel ?
Le général Tzvika Chaimovitch écrit ce matin sur le Israel Hayom, sur ce qu'il appelle la première guerre des drones entre Israël et ses ennemis. Et il affirme qu'il est impératif de trouver une réponse technologique à la problématique posée par ces drones offensifs. Cette menace défie surtout l'arrière, écrit-il ce matin le général Gershon HaKohen. Autre expert sécuritaire appelle toujours dans le Israel Hayom Tzahal à conserver le momentum positif de ces dernières semaines au nord, et ce face à la volonté du Hamas et du Hezbollah de nous plonger dans une guerre d'usure qui nous épuise. Karni Eldad, elle écrit tout ce matin, il faut serrer des dents. Le peuple de l'éternité n'a pas peur des longs cheminements. Un jour, tout cela sera terminé. Mais pour l'instant, il faut rester la tête haute et remporter cette guerre. Fin de citation.
Et les correspondants de guerre de nombreux journaux et médias étaient hier en visite au sud Liban, en coordination avec le porte-parole de Tsahal.
Oui, tout cela s'est bien entendu passé avant donc l'attaque du drone contre la base de la brigade Golani. Et ces journalistes donc qui sont revenus hier soir du sud Liban avec de précieuses informations sur les préparatifs machiavéliques du Hezbollah. Ils nous parlent de tunnels qui parvenaient à la limite de la frontière israélo-libanaise, de matériel militaire ultra moderne et non encore utilisé, retrouvé dans des dizaines de bunkers prêts à servir. Et ils nous parlent, ils nous détaillent un plan d'invasion de la Galilée qui a été préparé par Hassan Nasrallah. Nasrallah et ses sbires, un plan minutieux qui devait être réalisé par la force Radouane, la force d'élite du Hezbollah, à quelques centaines de mètres donc même de Naharia. Les journaux citent également dans ce contexte le ministre israélien de la Défense qui a déclaré hier que le Hezbollah ne disposait plus que d'un tiers de ses capacités de missiles à courte et moyenne portée. Et le Israël Hayom reprend ce matin une information qui faisait déjà la une hier des journaux papier. Les Américains vont acheminer très rapidement en Israël des systèmes de défense Saad qui pourraient protéger donc Israël de manière plus efficace face à ces drones et à d'autres menaces de missiles balistiques.
Et dans le Yediot Aharonot, le docteur Michael Milstein revient sur d'autres révélations, celle du New York Times sur le plan d'invasion de Sinoir.
Oui, là aussi nous en avons parlé, mais il fournit de nouveaux détails. Selon le docteur Milstein, les documents découverts sous la bande de Gaza lèvent le voile sur les événements qui ont précédé le 7 octobre et qui permettent d'expliquer l'origine de ce fameux concept selon lequel le Hamas était soi-disant dissuadé de s'attaquer à Israël. Seul problème, la conduite actuelle des forces israéliennes dans la bande de Gaza ne permet pas, selon lui, de conclure qu'aujourd'hui l'armée ait tiré les leçons de ces erreurs d'appréciation jusqu'au 7 octobre 2023. Ceux qui continuent à parler de victoire totale ne comprennent pas que face à un ennemi idéologique tel que le Hamas, la mort est préférable à la défaite. Fin de citation.
Autre éditorial important dans le Yediot Aharonot, il se rapporte à la tension entre Israël et des pays occidentaux comme la France autour de la présence de la FINUL.
Oui, la présence de la FINUL au sud du Liban, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, qui constate dans cet éditorial qu'avec l'entrée des forces israéliennes au sud du Liban, les soldats de la FINUL sont devenus les boucliers humains des terroristes de Hezbollah et que cela place les soldats de Tzal dans des positions particulièrement délicates face à ces casques bleus. Michael Oren revient sur l'historique de la FINUL et souligne son inefficacité durant la majeure partie de son existence. Il écrit que l'exigence formulée par Israël et par Netanyahou de retirer cette force d'interposition qui ne s'est jamais vraiment interposée est plus justifié que jamais.
Enfin, dans le Israël Hayom, un éditorial important de Dany Zaken sur le rôle néfaste de la presse et de la plupart des médias internationaux.
Dany Zaken constate dans le Israël Hayom de ce matin, comme il écrit, que de CBS à CNN, les médias internationaux ont choisi de trahir leurs propres valeurs morales et éthiques et de tourner le dos à Israël. Il fournit justement deux exemples de la présentation mensongère de ces deux médias américains lorsque les rédacteurs en chef ont fustigé un journaliste de la chaîne qui avait eu l'honnêteté de présenter en direct la position d'Israël et de poser des questions plutôt embarrassantes à un interlocuteur pro-palestinien ou pro-Hizbollah. Ou encore, il cite, Dany Zaken cite l'interview stupéfiante sur CNN d'un soi-disant journaliste palestinien qui a affirmé que le 7 octobre, ce sont les Israéliens qui ont attaqué Gaza sans la moindre provocation de la part du Hamas. Dany Zaken affirme que cette présentation biaisée et mensongère se répercute au sein de l'opinion publique internationale et cause de sérieux dégâts à la communication d'Israël.
Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve demain matin dans la matinale sur Radio J.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-Hayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons.
Vous écoutez le 6-9, Charlène Villemer.
Allez, restez avec nous sur Radio J. Merci, on est ensemble jusqu'à 9h. Vous pouvez nous suivre également en direct sur YouTube puisqu'on vous lit tous les jours. Shalom à vous. À suivre Christophe Barbier comme chaque lundi pour l'édito. Il sera avec notre journaliste Eva Soto. Et puis juste avant, est-ce que vous avez envie de rire un petit peu? On se détend avec Nicolas Raphaël ce matin et sa plume qui seront avec nous pour nous faire bien rigoler. Restez avec nous sur Radio J. On revient dans quelques instants. Et puis, tout au long de la matinée, ça continue. On reviendra évidemment avec Microsion à 8h17. Xavier Natav, tous les matins, qui nous livre notre carte postale d'Israël. Et puis, notre invité en fin de matinée, Raphaël Jérusalmi, analyste de défense sur I24 News.
Radio J.
Radio J. Tous les lundis, 21h-22h.
Classico.
Salut, c'est Steve Nadjar. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Almeta, Grégory Schneider, ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend, soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h, sur Radio J.
Radio J.
Vous êtes un professionnel de l'immobilier à la recherche d'un réseau qui vous comprend? Meilleurbiens.pro est là pour vous. Meilleurbiens.pro vous offre un environnement innovant et équitable, conçu pour optimiser vos dépenses tout en maximisant vos profits. Rejoignez un réseau où votre expertise est valorisée avec des outils modernes et un accompagnement sur mesure. Meilleurbiens.pro, c'est l'immobilier de demain, accessible dès aujourd'hui. Faites le choix de la performance et du succès. Meilleurbiens.pro, la solution digitale pour les professionnels de l'immobilier. Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
Excellent réveil à l'écoute de Radio J. On accueille Nicolas. Bonjour Nicolas.
Salut. Je suis venu vous dire shalom.
Comment ça va Nicolas?
Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va pour vous? Parce que pour moi, ah oui, pour moi, ça va pas, mais pas du tout.
Mais qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Vous n'êtes pas en forme ce matin?
Stone, le monde est stone. Je cherche un tranxène au milieu de la nuit.
Ben oui, on cherche tous un tranxène en ce moment, au milieu de la nuit, c'est sûr. Pourtant, vous êtes d'humeur chantante ce matin.
Chante, la vie chante, comme si Christophe Barbier devait chanter.
Yeah.
Bon, pas très optimiste tout ça, vous n'allez pas mourir demain.
Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir. La tonalité est pas évidente. Venez plutôt m'abattre.
Nicolas, vous avez pensé à consulter un médecin?
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rende, j'ai le pylore qui se colore, j'ai l'LFI qui dévie, le PS en PLS, le Macron qui est pas bon, le Barnier déjà vidé, le Retailleau à Beauvau, le Migaud trop justo, la Dati très jolie, la Vautrin qui est pas bien, le Nasrallah qui est plus là, et l'Iran c'est navrant, le Liban quel bilan, et Bibi dans le Baba, bye bye le Hezbollah, le Hamas dégueulasse, et Tzahal qu'à la dalle. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant d'être ashkénaze tout le temps.
Mais oui, voilà, vous êtes ashkénaze, il faut vous faire désashkéniser. En plus, c'est malin votre truc ce matin, vous n'avez pas écrit une ligne, vous faites que citer les paroles des autres.
Puisqu'il faut le dire, à mon tour je veux le dire, sans contrefaçon, je suis un escroc.
Ah oui, en plus ça ne rime pas. Vraiment escroc, hein. Qu'avez-vous Nicolas?
Ashkenaz, je trouve vraiment que le monde est naze.
Bon, certes, mais il y a tout de même des motifs d'optimisme, non?
Oh là.
Ah tiens, vous n'avez pas chanté là. Bon, la situation géopolitique mondiale est pas géniale, mais en France, l'arrivée de Michel Barnier, Macron, qui se fait un peu plus discret.
Je me sens mal aimé. Je suis bien sifflé, je déteste la marche, mais je ne veux pas marcher. À l'idée, allume le feu, moi je veux le cesser. Putain, 2 ans et demi encore, je suis désespéré, car je suis ashkénaze.
Oh non, vous n'allez pas recommencer, Emmanuel Macron n'est pas ashkénaze, il y a quand même de la joie encore qui est là, il faut y croire, Nicolas.
Et je me demande si tu existes encore. Mais je me demande si Sinoir vit encore.
Oui, bon, c'est un vrai medley clos-clos. Ça ne veut plus rien dire, ce texte, malheureusement, que Christophe Barbier est juste après, hein, Nicolas.
Je suis le roi de l'édito, de la Barbie Chambiso. Je suis le Barbier de Radio J. De Barnier et de Macron, je parle de sans affectation. Je suis pas comme Pascal Pro, pas comme Pio, Vivien Pablo, je monopolise pas le micro. J'essaie de faire juste mon métier, en artisan de la gaieté. Je ne m'écharpe pas, non,
Je vaux bien mieux que ça. Au fond, je sais que je suis gentil, mais attention, je rase gratuit.
Bien, en cette conclusion, pour cette chronique, Nicolas, vous n'avez pas écrit un mot. Je ne sais pas si vous serez payé. Hein.
Ah. Bon, ben, on va chanter la chanson de l'acronyme. Qu'est-ce que c'est comme acronyme? On va le découvrir pendant le refrain. Attention. Mon pote, bienvenue sur Air France, à moins que tu ne préfères Transavia pour ton retour. On t'a pris un billet, il est open when you like, my dear. Prends-toi un jus de tomate et détends-toi. Retour à Warzazat, ah ouais, vas-y. On sera ravis de te revoir, mais si tu veux pas, c'est pas grave. Allez, va. Nanananana,
OQTF.
Ah non, c'est pas un gros mot.
OQTF.
Attache ta ceinture, on va décoller. Le temps sera clair sur tout le parcours. Allez, tout le monde.
OQTF.
Il y a une ambiance d'enfer, c'est pas un gros mot.
Super sympa, Nicolas. Merci beaucoup pour ce billet d'humeur, cette chronique. Merci, on vous retrouve lundi prochain sur Radio J. À suivre, Christophe Barbier avec Eva Soto.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
Radio J. Et comme tous les jours. Et comme tous les jours, 7h45, nous retrouvons Christophe Barbier.
Bonjour Christophe.
Bonjour Eva, bonjour Charline, bonjour à tous.
Le lundi, c'est l'heure de votre édito. Bien sûr, on s'intéresse aux répercussions en France de ce qui se passe en Israël, notamment de ces tensions entre Israël et la FINUL. Alors, le fait que des soldats sous casque bleu aient été blessés par des tirs israéliens, est-ce que ça engage une nouvelle étape des tensions entre la France et Israël?
Oui, incontestablement. D'abord, on le voit dans les mots, puisque le mot d'inacceptable a été prononcé. La France ne tolérera pas, a dit Emmanuel Macron. L'ambassadeur d'Israël en France a été convoqué, donc on monte dans un degré dans la tension, ou du moins dans l'explication musclée entre les deux pays. Ça a permis aussi à Emmanuel Macron de réitérer ce qu'il avait dit le 5 octobre, il faut arrêter de livrer des armes à Israël, a-t-il dit, tout en ajoutant, et ce n'est pas rien, que ça ne devait pas porter atteinte à la capacité d'Israël à se défendre. Sur le terrain, tout de même, le problème, bien sûr, c'est que l'armée israélienne dans son opération ait des dommages collatéraux, comme on dit, sur des forces de la FINUL. Mais c'est surtout que la FINUL soit en échec depuis des années maintenant, à faire respecter notamment la résolution 1701 de l'ONU. Elle est là pour ça, cette FINUL, elle n'y arrive pas. Le sud du Liban n'a pas été désarmé, n'a pas été neutralisé. C'est ça l'essentiel.
Il faut discuter avec le Hezbollah, affirme Jean-Yves Le Drian, envoyé du président Macron pour le Liban dans la tribune dimanche. Vu que des discussions existent en fait déjà avec le Hezbollah, qu'est-ce qu'il veut dire exactement?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ce rappel. D'abord, la France continue à vouloir distinguer le Hezbollah politique du Hezbollah armée. Le Hezbollah militaire est une force terroriste, nous dit Jean-Yves Le Drian. Le Hezbollah politique fait partie prenante de la vie politique libanaise. C'est quand même sous-estimer l'emprise tyrannique à travers le Hezbollah que l'Iran essaye de faire peser sur le Liban. La vie politique a été faussée par le Hezbollah depuis des années maintenant. Depuis 2020, si ce pays est incapable de se doter d'institutions stables, c'est à cause de l'Iran via le Hezbollah. Et ça, la France n'en est pas assez consciente. Il y a un rêve français de restaurer cette mosaïque libanaise où on fait l'équilibre entre les ethnies, les cultes, les factions politiques, et on arrive à faire avancer miraculeusement ce pays. Cet équilibre-là, bah, c'est le Liban de grand-papa, il ne reviendra pas.
Christophe, la France et Israël sont très proches sur le dossier iranien en général. D'ailleurs, souvent, c'est ce que dit l'ambassadeur d'Israël en France, c'est ce que dit l'ambassade en France. Pourtant, la France, là, précisément dans ce dossier libanais, semble faire quelque chose qui serait de l'ordre de ménager l'Iran. C'est un peu difficile à lire.
Oui, c'est difficile à lire. Alors, il y a une raison quand même objective, concrète, et d'ailleurs, le dernier coup de téléphone de Macron au président iranien, Masoud Pezeshkian, va dans ce sens-là. C'est les otages français qui sont en Iran. On a des ressortissants qui sont retenus contre leur gré, prisonniers en Iran. Et évidemment, la République française pense à eux dans sa diplomatie. Ensuite, il y a les ambivalences françaises, permanentes, pérennes, dans cette région du monde, vis-à-vis de la Turquie, de l'Iran, du Qatar, de l'Azerbaïdjan. On souffle le chaud, on souffle le froid, parce qu'on considère que la diplomatie, c'est cela. Mais une diplomatie Macron qui surestime peut-être aujourd'hui son influence et ses forces, et qui continue à souffler le chaud et le froid en pensant qu'elle peut en sortir gagnante, alors que son influence ne fait que se réduire. Il y a ce matin dans le Figaro un papier accablant de Nicolas Bavrez sur le bilan de cette diplomatie Macron dans le monde entier. On voit bien que le double quinquennat Macron aura été une décennie d'affaiblissement diplomatique de la France.
Christophe Barbier, dans ce que fait Emmanuel Macron, son en même temps diplomatique, est-ce que finalement ça ne s'inscrit pas dans une certaine tradition française qui aujourd'hui se retrouve à la traîne étant donné les enjeux politiques internationaux ?
Bien sûr, il y a une tradition française qui vient du gaullisme et même de plus loin, qui est la tradition du Quai d'Orsay et qui n'a jamais été favorable au sionisme, qui a toujours été extrêmement critique. On voit bien que cette position-là était tenable quand la France avait une véritable influence concrète, jusqu'aux années Chirac par exemple au Liban, et quand cette région du monde échappait à une complexité qui s'est considérablement accrue depuis le 11 septembre 2001. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la lecture de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient doit se faire à travers l'offensive mondiale de l'islamisme politique. C'est beaucoup plus complexe que ce qui était le cas au XXe siècle. Et la diplomatie française ne s'est pas mise à l'heure.
Alors justement, à propos d'islamisme politique et plus exactement même d'islamiste meurtrier, un an après les assassinats de Dominique Bernard, 4 ans pour Samuel Paty, est-ce qu'on a tiré les leçons de l'attentat contre ces deux professeurs par des islamistes ?
Eh bien, la réponse, et c'est pas une réponse de Normand, c'est oui et non. Et d'ailleurs, l'édito de Caroline Yadan tout à l'heure l'illustrait très bien. Oui, on en a tenu compte. Par exemple, les demandes de protection fonctionnelle. Quand un enseignant se sent menacé, il demande une protection fonctionnelle, c'est en hausse de 29% en 2023 par rapport à 2022 et de 15% en 2022 par rapport à 2021. Donc la machine administrative répond aux appels au secours, aux appels à l'aide, aux alertes de ces professeurs, de ces fonctionnaires. Le pas de vague a reculé quand même beaucoup. On étouffe moins les affaires parce qu'on se rend compte qu'étouffer, ça mène à des tragédies comme celle de Samuel Paty. En revanche, on sous-estime quand même le risque, c'est-à-dire la pression de l'islamisme politique à travers l'école, à travers le rapport de force avec les services publics. De ce côté-là, la vigilance de l'administration a cru, le réveil politique et la proposition de solutions structurelles n'a pas vraiment progressé.
Mais est-ce que justement, c'est pas ça le nœud du problème ? C'est-à-dire que dans une démocratie où chacun doit pouvoir exprimer ses opinions librement, doit pouvoir exprimer ce qu'il est aussi librement, il y a comme un angle mort finalement où perdure, profite l'islamisme, et ça c'est très très difficile à appréhender.
Oui, c'est très difficile à appréhender parce que à l'école notamment, c'est un lieu de liberté d'expression pour les enfants qui se constituent une conscience personnelle et même parfois politique. Mais le problème n'est pas tant ce qu'on laisse dire, c'est ce que l'on s'interdit de dire. Il y a une autocensure qui s'est développée, il y a des thèmes qu'on n'aborde plus à l'école, notamment le thème de la Shoah, mais aussi par exemple les théories de l'évolution, le darwinisme. Tout cela n'est plus évoqué. C'est plus cette autocensure qu'il faut combattre en convainquant les profs de ne pas déserter ce terrain-là et en les assistant pour faire leur métier, plutôt que de s'inquiéter seulement de ce qui est dit parfois avec véhémence. C'est aussi cela, l'école, c'est l'endroit où on s'exprime parfois avec excès.
Alors, est-ce que des attentats comme ceux contre Dominique Bernard et Samuel Paty peuvent se reproduire ?
Bien sûr, parce que les professeurs de lettres et d'histoire qui transmettent les valeurs des Lumières, les valeurs de la République, ils sont toujours aussi exposés. Et puis, ça peut se reproduire parce que ces attentats, ces meurtres, ça a toujours été avec de petits moyens. On n'a pas eu de mobilisation d'une organisation internationale pour assassiner Paty ou Bernard. Ça s'est fait de manière presque improvisée, c'est-à-dire très difficile à détecter. Donc c'est la vigilance de tous les jours qui peut permettre de protéger ces professeurs. Il ne faut pas rêver d'une surveillance policière hermétique.
Et puis, il faut le rappeler aussi, hein, Christophe Barbier, le premier professeur assassiné en France, c'était en 2012, hein, à l'école Haute-Zart, à Thorat de Toulouse. C'est aussi souvent, malheureusement, un angle mort de ce problème, justement. On en vient aux atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. Elles sont en forte baisse selon la ministre. Est-ce qu'on peut s'en réjouir ?
Oui, il faut s'en réjouir. Alors pourquoi elles sont en forte baisse ? Parce que en septembre 2023, on sortait de la polémique abaya avec l'interdiction formulée par Gabriel Attal. Il y avait eu beaucoup de provocations. 838 atteintes à la laïcité dans les établissements. C'est tombé à 110. On peut se dire, bon, c'est très bien. Ça veut dire que la fermeté marche. Quand la loi républicaine est exprimée de manière claire et forte, eh bien les personnels l'appliquent et les citoyens récalcitrants finissent par se soumettre à la loi. Encore que 110, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, ça veut dire quand même plusieurs par jour dans les établissements, sans compter évidemment celles qui ne sont pas remontées.
On l'a vu ce week-end dans un sondage paru dans le JDD, 75% des Français estiment que la laïcité est en danger. Alors justement, entre ce que dit la ministre et ses chiffres, comment ça s'explique ce décalage ?
Ça s'explique d'abord parce que tous les incidents ne sont pas quantifiés, ne sont pas notés. Par exemple, on apprend que les directeurs d'établissement ont beaucoup de mal à signaler les jeunes filles qui ont une dispense de sport, qui ne pratiquent pas l'EPS. Parce qu'on ne sait pas si c'est pour un problème médical, pour un problème passager, ou parce qu'il y a une volonté islamique derrière cela. Donc, il y a cette difficulté à faire remonter certains incidents. Et puis, on voit bien qu'on a un problème de flottement du concept de laïcité. On voit bien que c'est quelque chose qui a besoin d'être redéfini, d'être peut-être repensé collectivement, mais il faut pas s'en inquiéter. La laïcité, c'est quelque chose de vivant. C'est une notion vivante. Tous les jours, il faut la remettre en question. Il faut en rappeler les piliers, le droit au blasphème, le fait que l'école soit un sanctuaire. Mais il faut montrer aussi qu'il y a parfois une marge de négociation, de débat, où on peut ne pas être tous d'accord sur ce qu'est la laïcité à la française. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi, avec un terme qui est un terme lui-même flou, gris. C'est le terme d'ostentatoire. Il ne faut pas avoir de signe religieux ostentatoire à l'école. Ça veut dire quoi, ostentatoire ? À partir de combien de centimètres un signe religieux est ostentatoire ? C'est laissé à la libre appréciation des enseignants, des directeurs d'établissement, des parents, de ceux qui font vivre la communauté éducative, et ça doit être vrai dans le reste de la société. Les sorties scolaires, est-ce qu'on est encore à l'école ? Donc les mères qui accompagnent ne peuvent pas être voilées ? Ou est-ce qu'au contraire, l'école dit on sort de l'école, c'est une sortie, c'est pour montrer le monde tel qu'il est ? On voit des policiers dans la rue, des clochards dans la rue, et on voit aussi qu'il y a des gens qui expriment leur religion. On peut penser les deux choses en étant de bonne foi des deux côtés. La laïcité doit rester quelque chose de vivant.
Alors, la laïcité, quelque chose de vivant, effectivement, la laïcité, malheureusement, c'est aussi pris parfois par certains comme justement une façon de brider la liberté religieuse, Christophe Barbier. Oui. Comment y remédier tout en luttant contre des problèmes de communautarisme à l'école ?
Voilà. D'abord, il faut procéder par le débat public, intellectuel et le débat politique. À la fin, c'est la loi qui tranche. Sur le communautarisme, sur le séparatisme, on a fait une loi pour bien montrer où était la frontière. Sur le reste, c'est le débat public. Certains considèrent qu'au nom du bien-être animal, il faut supprimer l'abattage rituel. D'autres disent non, c'est une atteinte à la religion. Ayons ce débat public et nul doute que la sagesse collective l'emportera. Ce débat-là, il est bon, il est vivant, il est sain. Et il est bien peut-être aussi parfois de ne pas le trancher, de le laisser en suspens, de dire, on continue comme ça, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, qui a le bien, qui a le mal, on continue ainsi dans la tolérance. Et c'est ça peut-être le mot qui a trop disparu de notre espace public, c'est le mot de tolérance. Je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec elle, ni avec ses mots, ni avec son comportement, mais je le laisse faire, parce que finalement, ça ne porte pas atteinte à mes droits fondamentaux.
C'est un problème aussi, Christophe Barbier, de crispation.
Oui, bien sûr. Nous sommes dans une société de plus en plus crispée. Nous sommes dans un monde de plus en plus violent. Le moindre désaccord se transforme en rafale d'insultes sur les réseaux sociaux et assez rapidement en menace de mort. D'où l'importance de réguler le débat public. Eh bien, quand vous avez des insultes proférées sur les ondes de la radio, vous pouvez aller devant le juge. Eh bien, quand il y a des insultes ou des menaces proférées sur les réseaux sociaux, il faut légiférer. On progresse. Les signalements Pharos, les retraits de contenu, le bras de fer avec les GAFAM, on progresse, mais on progresse lentement. C'est-à-dire que la loi de la jungle s'est répandue à vitesse grand V sur la planète et la reconquête de la civilisation, elle va se faire à petits pas.
Merci beaucoup Christophe Barbier. Christophe Barbier qu'on retrouve tous les jours sur Radio G pour son interview politique et bien sûr avec beaucoup de plaisir chaque lundi pour son édito qui nous permet de décrypter l'actualité. Merci beaucoup Christophe.
Merci Eva.
Et merci à vous Eva Soto. Christophe Barbier que vous retrouverez demain. Votre invité sera le Stéphane Rudulier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Le Barbier du matin, rendez-vous demain à 7h45 sur Radio J.
Radio J, retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.
Bonjour, c'est Annabelle Chaud. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 15h à 16h20 avec un invité dans mon émission sur Radio J. Interview, confidences, jeux, défis. Vos artistes comme vous ne les avez jamais entendus, c'est dans le Annabelle Chaud, le late show de l'après-midi, du lundi au jeudi à 15h sur Radio J.
Radio J.
Vous rêvez d'un investissement immobilier rentable et sécurisé? Avec Helios Premium Immobilier, c'est possible au cœur de la magnifique Riviera Maya au Mexique.
Helios Premium Immobilier.
L'équipe française d'Helios Premium Immobilier vous accompagne sur place à chaque étape de votre projet. Investissez sans contrainte, diversifiez vos avoirs et maximisez vos gains dans un marché en pleine croissance avec un environnement fiscal avantageux. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle.
Helios Premium Immobilier.
WhatsApp au plus 33 601 741 452.
Itzik Moschel, directeur de Dialang.
Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel.
Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510€.
510€.
Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang,
Dialang
au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Atiti Anita.
Radio J.
Atche Batakaro. Ader Tangiriti Chateau Vintipa. Atche Batakaro. Adèle Tangiriti Lakilaka.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.